Rousseau.
If any member of the family should die whilst in the shelter from contamination, put them outside. But remember to tag them first for identification purposes. Mine is the last voice that you will ever hear.
Bonjour à toutes et à tous, c'est la musique adoucit les mœurs, la musique adoucit les mœurs qui commence aujourd'hui avec en fond sonore Coleman Hawkins dans Body and Soul. De quoi vous présenter cette émission et son programme. Depuis de longues années déjà, de très longues années même, la musique adoucit les mœurs vous propose un rendez-vous hebdomadaire consacré à la paix et à la non-violence, et c'est surtout la recherche de la paix et de la non-violence dans notre monde de brutes dont il s'agit dans cette émission qui vous est proposée sur Radio Air Libre tous les vendredis de 9 à 10 heures, et l'émission est rediffusée le lendemain en début d'après-midi de 14 à 15 heures, toujours sur Radio Air Libre. Alors des sujets qui ont un lien avec les problématiques de paix et de non-violence, on peut les chercher dans différents domaines, y compris l'éducation, la santé, les problèmes humanitaires ou géopolitiques. On parle aussi de temps en temps des aspects plus civils, dirions-nous, de la non-violence, comme la lutte contre les violences conjugales, la lutte contre la présence d'armes légères dans la population, également l'éducation à la paix, sans oublier des séquences historiques que nous vous proposons régulièrement dans cette émission. De quoi parlerons-nous dans l'émission d'aujourd'hui ? Eh bien, plus spécifiquement, nous parlerons de l'interdiction des robots tueurs, ou en tout cas du souhait de cette interdiction et du rôle que pourrait y jouer la Belgique. C'est à travers un article paru dans le journal Le Soir au niveau d'une carte blanche parue il y a quelques jours déjà. Et puis, on parlera également de la Facilité européenne pour la paix qui font l'objet d'une publication de l'Observatoire Boutros Ghali pour la paix. Premiers enseignements et perspectives pour l'Afrique. On verra ça dans quelques instants. Et on terminera en revenant sur un concept qui avait été mis en avant il y a bien longtemps déjà, dans les années 80, au moment de l'enrichissement, si j'ose dire, des stocks et des arsenaux nucléaires. Et je vais revenir sur un texte de l'époque, des années 80, sur le désarmement nucléaire unilatéral et réciproque qui était abordé et demandé à corps et à cri par certains. La musique adoucit les mœurs, c'est parti.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous serons bons, mon frère.
Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie.
Oh.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous, nous serons morts. Sagesse ici-bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, et nous nous serons confrères.
Version mémorable de Quand les hommes vivront d'amour de Raymond Lévesque, une chanson qui date des années 50, ici interprétée par Félix Leclerc, Robert Charlebois et Gilles Vigneault. C'était à la Super Francofête au Québec, dans les plaines d'Abraham, si mes souvenirs sont exacts, dans les années 70, un des hauts faits culturels pour le Québec de la deuxième moitié du 20e siècle. Pas moins que ça, à mon avis. Ça fait l'objet d'un double album qui est sorti il y a bien longtemps, et on retrouve donc cette version de cette chanson que chaque chanteur québécois doit au moins avoir enregistrée une fois dans sa vie, comme je le disais encore récemment dans cette émission. Pour suivre et pour aborder le premier sujet de l'émission d'aujourd'hui, je vous propose ce concerto numéro 1 en mi bémol majeur de Dmitri Shostakovich. C'est un concerto pour violoncelle, et le violoncelle est entre les mains et entre les jambes de Jibai Shen. C'était à l'occasion du concours Anne-Elisabeth consacré au violoncelle, précisément 2022. Et le premier sujet de l'émission La musique adoucit les mœurs d'aujourd'hui, c'est une carte blanche qui est parue dans le journal Le Soir il y a quelques jours et qui concerne la campagne pour l'interdiction des robots tueurs. La Belgique peut et doit en faire plus. C'est ce que déclaraient d'emblée les auteurs de cette carte blanche, à savoir Jonathan Bannenberg, du groupe de recherche d'information sur la paix et la sécurité, le GRIP donc, et d'autre part Stéphane Niewinkel de Pax Christi Vlaanderen. C'était publié le 27 mars dernier. Et vous avez toujours accès sur le site, si vous êtes abonné en tout cas au site du soir, vous avez toujours accès à ces cartes blanches, même si elles sont déjà passées depuis, si elles ont été publiées donc il y a déjà plusieurs semaines. Et donc les deux protagonistes de cette carte blanche, qui partagent d'ailleurs leur point de vue avec bien des associations pacifistes ici en Belgique, c'est que la Belgique pourrait faire comme elle l'a fait pour les mines antipersonnelles et pour les armes à sous-munitions, c'est-à-dire avoir un rôle majeur dans l'établissement d'une interdiction de ces armes forcément particulièrement dangereuses et plus particulièrement encore pour les populations civiles. Alors, on va parcourir le texte de cette carte blanche ensemble, si vous le voulez bien. L'utilisation de la force par des systèmes d'armes autonomes repose notamment sur des technologies de l'intelligence artificielle pour analyser des données acquises par des capteurs mesurant le poids, la signature thermique ou la manière de se mouvoir. Dans le cas des systèmes d'armes létaux autonomes, aussi appelés SALA, ou aussi appelés communément robots tueurs, cette analyse, par l'intelligence artificielle donc, a vocation à entraîner une réaction potentiellement mortelle. C'est-à-dire que le robot qui détecte un certain nombre de choses, de paramètres qu'on lui a fixés, pourrait très bien se déclencher ou déclencher un armement et avoir donc des conséquences mortelles pour la personne visée, là où les personnes visées, et avec une probabilité d'erreur quand même qui existe dans ces cas-là, puisqu'on tire un peu en aveugle. Les préjudices causés par ces machines capables d'identifier, de sélectionner et d'attaquer une cible sans intervention humaine se situent ainsi à un stade extrême de déshumanisation numérique, voyant la mort d'un être humain décidé et dispensé de manière autonome sur la base de données algorithmiques. Ça fait un peu réfléchir quand même, parce que bon, c'est une des utilisations de l'intelligence artificielle. Il y a sans doute des manières plus intelligentes de l'utiliser, cette intelligence artificielle, mais voilà une dérive qui pourrait en découler, si je peux le dire comme ça. Et donc, c'est là qu'on en arrive, pour les deux auteurs de ce texte, à lancer des pistes et en tout cas à pousser à ce qu'il y ait un élan positif vers un traité international, peut-être pas nécessairement un traité d'interdiction globale, mais en tout cas au moins un traité d'encadrement, même si l'interdiction serait plus efficace, même s'il y a toujours des mauvais élèves dans la classe et qui utilisent par exemple encore aujourd'hui dans la guerre en Ukraine des armes à sous-munitions ou des mines antipersonnelles. Mais bon, un traité, c'est mieux que pas de traité, alors on y va. Pour éviter un glissement vers cette forme ultime de déshumanisation numérique, écrivent les deux pamphlétaires, une dynamique positive prend lentement forme au niveau international. À la suite d'un communiqué des États d'Amérique latine et des Caraïbes, appelant à un instrument juridiquement contraignant sur l'autonomie des systèmes d'armes, les États ont engagé des discussions de fond sur ces armes lors de la première réunion de 2023 du groupe d'experts gouvernementaux de la Convention sur certaines armes classiques, Convention des Nations Unies, qui s'est tenue du 6 au 10 mars. de cette année-ci. Donc. Actuellement, plus de 80 États, continuent nos deux auteurs, plus de 80 États demandent un instrument juridiquement contraignant. Cette base semble suffisamment large pour lancer des négociations en vue d'établir un nouveau traité international assurant un contrôle humain significatif sur l'utilisation des systèmes d'armes autonomes et rejetant l'automatisation du recours à la force létale. Ça veut dire à des armes qui tuent. Létale, ça fait un peu plus chic, évidemment, ça fait un peu néologisme aussi. Et Unoflang, c'est à votre choix. Alors, il y a malheureusement, comme le signalent les deux auteurs de cette carte blanche, une petite poignée d'États qui freinent le mouvement. Alors, il y en a trois, entre autres, qui sont désignés du doigt. La Russie, l'Inde et Israël ont ainsi averti qu'ils ne s'engageraient pas dans la négociation d'un accord juridiquement contraignant, réduisant ainsi le potentiel de la Convention à apporter une réelle solution aux problèmes posés par les armes autonomes. La règle du consensus en vigueur à la Convention permet en effet à un seul État de faire barrage à toute avancée. Donc c'est cette convention sur certaines armes classiques, la CCAC. Malheureusement, pendant que ces blocages persistent, la guerre en Ukraine a vu le déploiement sur le champ de bataille de systèmes d'armes, des munitions rôdeuses notamment, qui sans être pleinement autonomes participent d'un renforcement des logiques d'autonomisation des armements et de déshumanisation numérique. Plusieurs États et leurs fabricants d'armes semblent engagés dans la poursuite du fait accompli, soit une situation qui les verrait disposer d'armes létales autonomes avant les autres et qui les autoriserait éventuellement à se soustraire à tout cadre international prohibitif, ça veut dire les interdisant. Les règles de procédure de la Convention sont ainsi instrumentalisées par ces acteurs qui donnent l'illusion de discuter de bonne foi au sein d'un forum international, tout en s'assurant d'empêcher toute avancée probante, c'est-à-dire toute réelle avancée. Sortir de ce jeu de dupes imposerait de sortir de cette convention donc concernant les armes classiques, en empruntant par exemple le chemin de l'Assemblée générale des Nations Unies pour élaborer un instrument juridique régulant cette tendance à l'autonomie croissante des systèmes d'armes. Et là, nos deux auteurs en arrivent au rôle que pourrait jouer la Belgique dans ce domaine. La nécessité d'une action de la part de la Belgique, disent les deux auteurs de la carte blanche. En Belgique, écrivent-ils, les discussions à la Chambre commencent à produire des résultats, comme l'illustrent les amendements déposés au début du mois de mars sur la proposition de loi en vue d'interdire les robots tueurs et sur la proposition de résolution relative à un traité international d'interdiction de ces systèmes. La nécessité d'une procédure parallèle à la Convention des armes, donc, de l'ONU, y est d'ailleurs clairement mentionnée. Cependant, on constate que les derniers amendements font désormais référence au système d'armes létales entièrement autonome. Il semble que les acteurs belges aient ainsi voulu préserver la possibilité pour les forces armées de profiter des avantages qu'offre l'intelligence artificielle en matière de réactivité et de survivabilité notamment. Ce n'est d'ailleurs pas illégitime. On ne peut pas et on ne doit pas penser à un monde militaire demeurant étranger aux évolutions que les technologies de l'intelligence artificielle introduisent dans la vie quotidienne. L'idée est que les fonctions critiques de sélection et d'engagement des cibles restent sous un contrôle humain significatif. Il est essentiel que les utilisateurs d'un système d'armes autonomes potentiellement capable de donner la mort comprennent de manière exhaustive le contexte spécifique dans lequel la question d'ouvrir le feu ou non se pose. Il s'agit là d'une dimension incontournable qui doit permettre à l'opérateur humain de porter un jugement sécuritaire, humanitaire, moral et juridique sur les circonstances d'un tir et sur ses effets potentiels. Et ici, je voudrais quand même faire un petit commentaire, ou un commentaire un peu moins long que petit, plus long que petit. Je pense aux armes qui sont effectivement utilisées et téléguidées sur parfois de longues distances. Dans la guerre en Irak, il me semble me souvenir qu'on a utilisé des armements qui volaient au-dessus de l'Irak, mais qui étaient pilotés en Californie. Et donc le fait de ne plus se trouver sur le champ de bataille avec toutes ces atrocités rend évidemment le jugement différent que quand on se trouve quasiment yeux dans les yeux avec l'ennemi, ce qui était le cas pendant la guerre de 14, lorsqu'il y avait les combats à la baïonnette. Eh bien, si vous enfonciez votre baïonnette dans le ventre de l'adversaire, vous voyiez immédiatement les effets sur ses yeux, ce qui rendait les choses particulièrement atroces à voir et à subir pour celui qui était baïonnetté, évidemment. Dans une procédure où on éloigne du front, des opérateurs qui déclenchent des armes, qui tuent à distance, on a déjà une distance précisément avec cet ennemi, et ça le déshumanise encore un peu plus en disant, par rapport à la propagande qu'on peut faire pour un ennemi dans des guerres classiques comme on en faisait dans le temps, on déshumanise encore un peu plus, dis-je, et donc le fait de le tuer ou pas a finalement peu d'importance. Le but, c'est de remplir sa mission et de tirer quand on dit de tirer ou quand les critères établis sont rencontrés pour tirer et éventuellement tuer les gens. Ou comme on dit maintenant, on ne dit plus tuer, on ne tue plus d'ailleurs, on neutralise. Vous comprenez toute la différence pour celui qui tue, évidemment, pas pour celui qui est tué. Et donc, si on a des armes qui peuvent décider de tuer de manière autonome ou semi-autonome, on arrive encore à une déshumanisation plus grande de la guerre en général et des combats en particulier. Et c'est donc, entre autres, contre cela, contre cette déshumanisation, contre aussi le risque d'erreur, parce qu'on a beau être une intelligence artificielle et être peut-être plus intelligent que des intelligences humaines, personne, ni une intelligence artificielle, ni quelqu'un d'autre, n'est à l'abri d'une erreur de jugement, de fonctionnement, et donc de tuer, par exemple, des gens qui ne devraient pas être tués. De toute façon, pendant une guerre, il ne faut jamais tuer des gens pour raison de les tuer. Mais malheureusement, c'est le but de guerre, c'est de faire entrer de la mitraille dans des corps humains. En fait, disent les deux auteurs de la carte blanche, enfin ils le disent, ils l'écrivent, en fait ce n'est pas tant sur le degré d'autonomie de ces armes que devraient porter les discussions que sur la fiabilité d'un contrôle humain s'exerçant d'une manière aussi affranchie que possible des biais algorithmiques introduits par le recours à une intelligence artificielle. Que ce soit en Belgique ou à l'international, nos représentants doivent donc travailler à l'élaboration de règles relatives à la conception, au développement et à l'utilisation des systèmes d'armes autonomes pour assurer un contrôle humain significatif sur ceux-ci. Malgré un contexte marqué par des préoccupations stratégiques, cet objectif reste atteignable. Ne manque principalement que le courage politique de ne pas laisser les logiques de course aux armements et de recherche du fait accompli voulu par les plus grandes puissances militaires, dicter les comportements. L'affrontement bipolaire n'a pas empêché des diplomaties occidentales, même plus modestes, d'être les forces motrices d'un mouvement plaçant tant le contrôle des armements que le désarmement au cœur de la sécurité internationale. Ni la guerre en Ukraine, ni la promesse de tensions toujours plus vives avec la Chine ne doivent condamner à l'inaction, bien au contraire, écrivent Jonathan Bannenberg du Grip donc, et Stefan Niewinkel de Pax Christi Vlaanderen, dans cette carte blanche parue dans le journal Le Soir le mois dernier. Vous êtes toujours à l'écoute de La Musique Adoucit les Mœurs sur Radio Air Libre et on va continuer avec, on va continuer en chanson avec Charles Aznavour qui a évidemment chanté La Bohème mais qui a aussi chanté cette chanson que je vous propose qui est peut-être pas une des chansons les plus connues de Charles Aznavour. Ça s'appelle Les Enfants de la Guerre. On l'écoute.
Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants. Ils ont l'âge des pierres, du fer et du sang. Sur des larmes de mer, ils ont ouvert les yeux. Par des jours sans mystère et sur un monde en feu. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants. Ils ont connu la terre à feu et à sang. Ils ont eu des chimères pour aiguiser leurs dents et pris des cimetières pour des jardins d'enfants. Ces enfants de leur âge et des jours incertains qui avaient le visage creusé par la faim ont vieilli avant l'âge et grandi sans secours, sans toucher l'héritage que doit léguer l'amour. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants. Ils ont vu la colère étouffer leur chant, ont appris à se taire et à serrer les poings quand les voix mensongères leur dictaient leur destin. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants avec leur mine fière. Ces enfants, sans enfance, sans jeunesse et sans joie, qui tremblaient sans défense, de peur et de froid, qui défiaient la souffrance et taisaient leurs émois, mais vivaient l'espérance, sont comme toi et moi, des amants de misère. De malheureux amants, aux amours singulières, aux rêves changeants, qui cherchent la lumière, mais la craignent pourtant, car les amants de la guerre sont restés des enfants.
La musique adoucit les mœurs avec en fond sonore Thelonious Monk et le morceau Blue Monk qui est une de ses signatures bien entendu pour parler de la Facilité européenne pour la paix. On a bien besoin de paix pour le moment en Europe, surtout à l'Est comme vous le savez. Toujours est-il qu'ici, c'est plutôt pour l'Afrique, l'Afrique dont on parle, dans un dossier paru paru à l'intervention, disons ça comme ça, de l'Observatoire Boutros Ghali du maintien de la paix, qui est un organe des Nations Unies, qui suit et qui étudie, qui se penche sur une étude intellectuelle, universitaire, dirais-je, des initiatives prises au niveau de la paix, entre autres, mais pas uniquement, en Afrique. Et c'est ce qu'on connaît plus particulièrement sous le nom des casques bleus, qui sont déployés un peu partout. Et donc, le truc en question, ici, Boutros Ghali, oh là là, ça va mal, étudie précisément tous les aspects qui sont liés à ces opérations de maintien de la paix en Afrique. Et là, c'est un dossier qui vient de paraître, que je ne vais pas vous détailler, mais dont je voulais vous signaler l'existence. C'est pas mon jour aujourd'hui, hein, je cherche après mes mots. Ce dossier sur la Facilité européenne pour la paix est signé par Samuel Longuet, chargé de recherche au GRIP depuis 2022, titulaire d'un master en politique internationale de l'Institut d'études politiques de Bordeaux, d'un master complémentaire, etc., etc., de l'ULB. Et il collabore également au centre REPI, Recherche et études en politique internationale, de la faculté de philosophie et sciences sociales de l'ULB. L'autre personne qui réalise ce dossier, c'est Clémence Buchet-Couzy, chargée de recherche au GRIP également, depuis l'année dernière, depuis un an. Elle est titulaire d'un master conflit et développement de l'Institut d'études politiques de Lille et d'une double licence d'histoire et géographie de l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne. Vous voyez, du beau monde, donc des gens qui sont à la pointe, j'allais dire à la pointe du combat, à la pointe de la connaissance et de l'analyse dans ce domaine. Alors, je vais vous lire l'introduction de ce document, donc que vous pouvez trouver sur le site en allant par le site du GRIP pour arriver à l'Observatoire Boutros Ghali de maintien de la paix. Le texte d'introduction dit ceci: actif depuis juillet 2021, la Facilité européenne pour la paix est un fonds hors budget de l'Union européenne consacré à la consolidation de la paix et la prévention des conflits dans le monde. Ben, c'est raté pour le Soudan. Cette note, qui est la quatrième d'une série dédiée à cette Facilité européenne, examine les premières dépenses effectuées dans ce cadre. Son objectif est d'en tirer les premiers enseignements quant aux perspectives de financement des opérations de paix et de renforcement des capacités militaires en Afrique. La note analyse notamment la façon dont la Facilité européenne a repris une partie des missions dévolues à la Facilité de paix pour l'Afrique, tout en devenant un instrument à portée mondiale. Elle se penche en particulier sur la place qui est accordée aux mesures d'assistance destinées spécifiquement à l'Afrique. Cet enjeu est d'autant plus crucial qu'une part importante du budget initial de la Facilité européenne a été consacrée à apporter une aide à l'Ukraine agressée par la Russie. Et donc c'est là qu'on a des glissements sémantiques. Facilité européenne pour la paix qui devient une facilité européenne pour la guerre en Ukraine, même si, il y a pas mal de choses à dire à ce niveau-là. On ne va pas se lancer sur ce dossier glissant, ce terrain glissant, dans l'émission d'aujourd'hui en tout cas. Et donc, ce qu'on destine précédemment ou préalablement à une cause est détourné d'une certaine manière vers une autre chose considérée comme prioritaire, et je ne dis pas qu'elle ne l'est pas, qui est la problématique de la guerre, appelons les mots par leur nom, la guerre en Ukraine agressée par la Russie. La note apporte également un éclairage sur une autre nouveauté de la Facilité européenne pour la paix, inaugurée en Ukraine, la possibilité de transférer des armes létales à un partenaire de l'Union européenne. Elle étudie dans quelle mesure ces premiers transferts sont annonciateurs de perspectives de transfert d'armes létales vers l'Afrique via la Facilité européenne pour la paix et analyse les enjeux qui y sont associés. Cette note a été réalisée grâce au soutien du Programme régional du dialogue de la politique sécuritaire en Afrique subsaharienne, CIPODI, et la Fondation Konrad Adenauer, KAS. Alors, c'est vrai que il y a eu un changement quand même important, hein, presque à 180 degrés, entre la décision, d'une part, d'interdire toute exportation d'une manière ou d'une autre, que ce soit vente, que ce soit prêt, que ce soit un don, que ce soit ce qu'on veut, vers des pays en guerre ou en conflit, éventuellement conflit interne, de pays européens vers d'autres pays extra-européens, eh bien effectivement, ça a été remis en cause lors de l'entrée en guerre ou l'attaque plutôt de la Russie à l'encontre de l'Ukraine. Et aujourd'hui, on est très fiers de dire, comme le patron de l'OTAN, secrétaire général, qu'on a déjà livré 250 chars et autant d'autres matériels, plus la formation, plus ceci ou plus cela. Donc complètement en contradiction avec les décisions préalables de l'Union européenne. On continue la musique adoucit les mœurs en chanson avec, je vous propose Constantin Wecker. Et à l'époque où il a enregistré ses chansons, il était encore un dissident de l'Est, n'est-ce pas ?
Er war schon von Haus aus eher verdächtig, so ohne der Mannspult, bescheiden, bedächtig. Vom Bund haben sie'n Horn geschickt, beim Bund brauchen's Männer, die männlich auf andere schießen können. Meist hockt er daheim und traut sich nicht raus, wie er ist, dann lacht er's aus. Unter so vielen Masken verliert man sein Gesicht. Erst grobt er sie ein, dann scheut er das Licht. Und Jahr für Jahr sieht er weniger weiter. Was wären bloß die Leid in dem Land nicht gescheiter? Aber wenn's unendlich von der Schuld befreien. Wer nicht allgemein ist, bleibt immer gemein. Und manchmal der Mächte sind weit rausschreien. Sei Angst, sein Verlangen, sein Anderssein. Und er spürt, wie er langsam die Seele verliert. Denn die Liebe ist immer für die anderen reserviert. Renn, lieber renn, du bist nicht normal. Es haben immer die anderen die bessere Moral. Solange die Welt so männlich ist, fürs Leben unempfänglich ist. Renn, renn, renn. Renn, lieber renn. Du bist nicht normal, es haben immer die anderen die bessere Moral. Solange die Welt so männlich ist, fürs Leben unempfänglich ist. Renn, renn, renn! Wenn bloß nicht die Nacht war, der Tag zieht vorbei. Doch die Nacht dauert ewig, die Lasten nicht frei. Wo so er bloß hier mit all seiner Lust, die staut sie im Herzen, zerfrisst ihm die Brust. Die schneit um die Luft ab, das ewige Lirren, da bleibt man stecken, da verlernt man das Fliehen. Bald glaubt das nur selber, dass er krank und schlecht ist, weil die Engstirnigkeit nach wie vor im Recht ist. Und Jahr für Jahr sieht er weniger weiter. Was wären bloß die Leid in dem Land nicht scheider? Er will so endlich von der Schuld befreien. Wer nicht allgemein ist, bleibt immer gemein. Und so wohl Mächten sind weit raus schreien. Ihr Angst, ihr Verlangen, ihr Anderssein. So sammeln sie sich, manche Herren schon blären. Die wollen nimmer warten, die wollen sie wehren. Schreien müssen wir schreien, was hörst du noch mal? Pfeifen wir an auf die bessere Moral. Solange die Welt so männlich ist, für Liebe unempfänglich ist, schreien müssen wir schreien. Schreien müssen wir schreien, was hörst du noch mal? Pfeifen wir an auf die bessere Moral. Solange die Welt so männlich ist, für Liebe unempfänglich ist, schreien müssen wir schreien.
On aborde la troisième partie de cette émission La musique adoucit les mœurs d'aujourd'hui avec en fond sonore la suite numéro 2 de l'Arlésienne de Georges Bizet, interprétée pour nous par le Philharmonia Orchestra de Londres sous la direction de Herbert von Karajan qui a été son chef d'orchestre pendant de nombreuses années après avoir été d'autres aventures sur lesquelles on va parvenir aujourd'hui. C'est l'occasion de retourner quand même en arrière et de se rappeler que dans les années 80, il y a eu pas mal de choses qui ont bougé au niveau nucléaire, entre autres en Europe avec l'installation des euromissiles à l'est et à l'ouest, aux grandes dames des populations à l'est comme à l'ouest d'ailleurs, même si certains n'avaient peut-être plus l'occasion de le dire que d'autres. Et ce qui a fait dire à certains esprits caustiques que les pacifistes étaient à l'ouest et les armes nucléaires à l'est, ce qui était une franche exagération, en tout cas par les contacts que nous avions à cette époque-là avec les gens, les monsieur, madame, tout le monde, à l'est, bien entendu. Et à l'époque également, s'est créé au niveau de l'Organisation des Nations Unies, de l'ONU, un secteur pour le désarmement, qui a publié régulièrement, qui publie d'ailleurs encore toujours, parce qu'il existe toujours, des notes d'analyse, des documents, des recherches, des études de chercheurs, etc. Et on va se pencher précisément sur une étude qui était parue dans la revue Désarmement, publiée donc par l'ONU, à l'été 1987, et qui parlait d'un concept, qui analysait un concept qui a été mis en avant à l'époque, c'est-à-dire le concept du désarmement nucléaire unilatéral, d'une part, et du désarmement nucléaire réciproque, d'autre part. Cette réflexion venait de Robert Delson, et je vous propose de vous en lire quelques extraits. Alors, en 1987, Robert Delson était un avocat international au cabinet juridique Delson et Gordon à New York, Washington et Jakarta. Et que dit ce monsieur à propos donc du désarmement nucléaire unilatéral et réciproque ? La réunion, dit-il ou écrit-il, la réunion qui a précédé le sommet de Reykjavik a peut-être ouvert la voie à une perspective plus favorable à celle qui existait auparavant à la conclusion d'un accord entre les superpuissances sur un désarmement nucléaire substantiel. Les accords provisoires ont été conclus sur, on cite, des réductions radicales des armes offensives stratégiques, sur l'élimination décisive des missiles nucléaires intermédiaires à plus longue portée et sur un régime des essais nucléaires. Ces accords n'ont pu être finalement conclus en raison de divergences sur les contraintes qui seraient acceptables dans le cadre de la mise en œuvre de l'Initiative de défense stratégique, l'IDS. Si l'on veut qu'un accord soit conclu au sujet de questions aussi controversées, alors que les deux parties continuent d'adopter des positions particulièrement inflexibles, des négociations difficiles seront probablement nécessaires. Alors, les deux parties, c'est évidemment d'un côté les Occidentaux, plus particulièrement les États-Unis, et d'autre part, à l'époque, le bloc de l'Est, avec à sa tête l'Union soviétique, bien entendu. Et on rappelle que, aussi paradoxal que cela puisse paraître, au même moment qu'on installe les euromissiles un peu dans tous les pays du bloc de l'Est ou du bloc de l'Ouest, en même temps, on a des négociations ou des appels ou des engagements à réaliser, à conclure des traités pour encadrer ce genre de déploiement, ce genre, et éventuellement l'utilisation de ces armements particulièrement dangereux, bien entendu. Et on a abouti, c'est une des choses assez étonnantes de cette course aux armements nucléaires, cette course a accouché de certains accords internationaux qui existent encore toujours pour certains d'entre eux. Pour d'autres, c'est un peu plus délicat et on se souvient que des gens comme M. Trump aux États-Unis, par exemple, ont décidé à un certain moment de ne plus respecter un certain nombre d'accords conclus entre les États-Unis et la Fédération de Russie, plus exactement à l'époque, le bloc soviétique, dont la Fédération de Russie est l'héritière, bien entendu. En outre, écrit Robert Delson, même si les partis pouvaient s'entendre au sujet de l'initiative de défense stratégique, l'IDS, ainsi que sur les grandes lignes d'un accord visant à réduire les missiles offensifs, des arrangements détaillés devront être élaborés pour régler de nombreuses questions épineuses. Par exemple, il n'a pas été indiqué si les réductions proposées ne seront acceptables que si la parité est maintenue à chaque phase. Car dans ce cas, les progrès seront presque aussi impossibles à réaliser que dans le passé. Ou si l'idée de l'ambassadeur Kennan concernant les réductions générales immédiates sera prise en considération, auquel cas les négociations pourraient progresser très rapidement. Un événement favorable qui s'est produit depuis la réunion de Reykjavik a été l'acceptation par l'Union soviétique de la proposition américaine tendant à éliminer les missiles nucléaires à moyenne portée en Europe, à condition que chaque partie puisse conserver 100 missiles à l'extérieur de l'Europe. Les États-Unis ont mis l'accent sur d'autres conditions, notamment le droit d'installer des missiles pour établir une parité avec l'Union soviétique, qui a déployé 130 missiles à courte portée en Europe. L'adoption d'un ensemble de mesures de vérification stricte des missiles à moyenne portée et l'élimination des 100 missiles que chaque partie doit conserver en dehors de l'Europe. Les deux parties ont fait part de leur optimisme au sujet des possibilités de régler ces questions. Et actuellement, il y a quasiment parité entre les États-Unis d'une part, la Fédération de Russie d'autre part, mais en restant avec des arsenaux nucléaires particulièrement importants, des milliers d'ogives nucléaires, si je me souviens bien, lorsque je cite le chiffre de mémoire, je n'ai pas été vérifié, on en est à un peu plus de 5000 têtes nucléaires de chaque côté, donc du côté américain et du côté russe. À cela s'ajoutent évidemment les armes nucléaires des autres pays possédant, ils sont en tout 7 ou 8 en plus des deux, donc. Et de toute façon, il y a une chose qui est bien établie, c'est qu'on n'aura pas besoin de toutes ces armes pour détruire la planète. On peut le faire même déjà simplement en ne prenant pas les mesures nécessaires au niveau écologie. Mais on peut aussi, avec les armes nucléaires, éliminer, avec les stocks actuels, toute vie sur Terre une septantaine de fois, d'après les chiffres que j'ai vus encore récemment. Une fois suffirait, bien entendu. Bien entendu, continue notre auteur, un tel accord n'aurait aucun effet sur le problème plus fondamental de la limitation des armes stratégiques, c'est-à-dire à longue portée, sur lesquelles les deux parties s'appuient à la fois pour l'offensive et la défensive. Il semble douteux que le processus de limitation des armements soit facilité par le projet concernant les armes stratégiques que les États-Unis ont présenté le 4 mai 1987 aux négociations de Genève, car ce projet codifie plutôt qu'il ne réduit les divergences entre les positions américaines et soviétiques. Par exemple, il laisse en suspens le problème de la revendication des États-Unis tendant à fixer les sous-limites distinctes aux missiles basés à terre, sur lesquels l'URSS s'appuie essentiellement, et aux missiles lourds, car l'Union soviétique veut refuser d'accepter des sous-limites dans ces deux catégories. Les types d'obstacles qui pourraient se trouver sur la voie de la conclusion d'accords bilatéraux sur la limitation des armements et la contribution éventuelle que des initiatives unilatérales pourraient apporter pour surmonter ces obstacles sont examinés ci-après. Et on ne va pas arriver jusque-là, je pense, aujourd'hui, mais ça ne fait rien. Je vous donne quand même un certain nombre d'éléments vous permettant de vous faire une petite idée de la problématique en question. Pour éviter de perdre du temps en cherchant à surmonter ces obstacles, les deux grandes puissances devraient s'attacher à prendre immédiatement, c'est-à-dire dès le début des négociations bilatérales, des initiatives unilatérales et progressives tendant à la réduction des tensions, plus largement que dans le cadre du processus engagé en Islande, donc le processus dit de Reykjavik. Ces initiatives pourraient faciliter le déroulement des négociations. En outre, si le processus bilatéral n'aboutit à aucun résultat, les initiatives unilatérales de désarmement constituent une autre voie pour parvenir au désarmement. Le présent article a été rédigé avant la réunion qui a précédé le sommet, mais il semble encore plus d'actualité aujourd'hui, écrit Robert Delson. Dans la présente étude, il est proposé que les superpuissances réduisent leurs arsenaux nucléaires au niveau de dissuasion minimal, conformément à la théorie de M. Charles Osgood concernant les initiatives progressives et réciproques visant à la réduction des tensions, qu'il a résumé sous le sigle GRIT. Et donc, là, c'est aussi un élément intéressant, c'est de voir que, contrairement à ce qu'on croit souvent, il y a des alternatives. Vous savez, il y a le fameux « There is no alternative », TINA, pour l'anagramme, de Margaret Thatcher, « Il n'y a pas d'autre solution que de faire ce que moi j'ai décidé ». Eh bien, si, et différents chercheurs, différentes personnes, différentes personnalités ont, entre autres dans le cadre de l'armement nucléaire, fait des propositions et continuent à en faire d'ailleurs toujours aujourd'hui, car il y a encore toujours aujourd'hui des armes nucléaires. Je vous ai dit qu'il y en a plus de 10 000 au niveau mondial. Et même en Belgique, nous en avons quelques-unes en dépôt. Je ne sais pas si elles sont revenues de leur... mais ça devrait être le cas. Elles sont revenues de leur entretien, leur modernisation, pour les rendre évidemment plus efficaces en cas de décision de les utiliser, ce qui pourrait quand même exister, puisque toute la politique de l'armement nucléaire repose sur la dissuasion et sur, en plus, le non-recours à l'arme nucléaire. C'est simplement le truc de dire, si vous attaquez, si vous commencez le premier, vous, ennemi désigné, eh bien, on va vous retaper des armes nucléaires sur la gueule, et tant pis pour vous. Moi, je dis ça gentiment, évidemment. Les gens qui disent ça normalement au niveau où ils sont, ils disent ça beaucoup plus méchamment et en montrant les dents. Et donc par rapport à cette théorie de Charles Osgood, par exemple, les choses qui sont proposées au niveau international dans les années 80, on parle par exemple dans une période de 10 ans où chaque parti prendrait l'initiative d'adopter une mesure de désarmement en escomptant que l'autre partie adopterait une mesure similaire à titre de réciprocité. Si cette mesure de réciprocité est adoptée, le processus se poursuivra jusqu'à ce que l'une des parties estime que la poursuite du désarmement mettrait en danger, sa sécurité. Ce processus renforcerait la dissuasion sur deux plans importants. Alors, on a évidemment les réductions substantielles qui seraient adoptées, auraient pour but d'établir une force nucléaire qui aurait la capacité de survivre à une attaque et d'infliger des représailles inacceptables en cas d'agression de l'adversaire. C'est la théorie de la destruction mutuelle assurée. Mais en même temps, elle découragerait l'agression car aucune des parties n'aurait les capacités de lancer une attaque de première frappe ou une attaque contre force ou de sortir vainqueur d'un conflit nucléaire. De telles mesures de désarmement réduiraient le danger d'une attaque nucléaire engagée intentionnellement ou à la suite d'une erreur de fonctionnement d'un système, ce qui est toujours à craindre évidemment, que ce soit l'intelligence artificielle ou pas. Alors, donc erreur de fonctionnement, action non autorisée, intensification d'une confrontation ou d'autres circonstances incontrôlables. Voilà donc quelques pistes, et ce n'est que le début de cet article de Robert Delson, donc article paru dans la revue Désarmement, publié par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Alors, je reviendrai peut-être sur ces désirs et demandes de dissuasion, de désarmement nucléaire unilatéral et réciproque, l'un n'excluant pas l'autre, hein, donc c'est ça que ça veut dire, et réciproque. Dans une prochaine émission, la musique adoucit les mœurs. Je vous rappelle que cette émission vous est proposée tous les vendredis de 9 à 10 heures sur Radio Air Libre et est rediffusée le lendemain, le samedi de 14 à 15 heures, toujours sur Radio Air Libre. On va terminer en chanson avec la marche antimissile de José Moineau. Ça date de ces années-là, les années 80, les années où il y a eu effectivement d'immenses marches antimissiles, particulièrement en Belgique, mais également dans d'autres pays, sauf en France, où on est resté avec très peu de réactions, quelques milliers de manifestants à peine, alors que la France est également un pays nucléaire, bien entendu. Si vous désirez prendre contact avec nous, eh bien faites-le par exemple via la page Facebook de l'émission La Musique adoucit les mœurs. Cette page est à votre disposition. J'y publie régulièrement des dossiers ou des liens vers des dossiers qui sont peut-être un peu trop lourds ou trop visuels pour vous montrer dans cette émission radiophonique. C'est le problème de la radio, c'est qu'il n'y a pas d'image. Enfin, la plupart des radios en tout cas. Eh bien, on se quitte là avec José Moineau, donc, et le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur Radio Air Libre.
Les enfants changeaient de combat et tout ça se promenait en marchant ou pas civil. L'automne s'ensoleillait, on se croyait au mois d'avril. Le printemps qui s'annonçait ne voulait pas leur missile et c'est ce qu'on leur disait en défilant dans la ville. Nous étions plus de 200 000 à chanter le désarmement. Et Bruxelles était noire, ma ville, son cœur disait que l'armement. Il y avait des calicots en flamand et en français. Il y avait des rigolos, ni wallons, ni polonais. Et tout ça ne faisait qu'un pour repousser les missiles, pour que survive chacun au cœur de sa propre ville. Nous étions plus de 200 000 à vouloir apprendre la vie. Et Bruxelles n'était plus servile, il était grand, mon petit pays.
Radio Air Libre.